Bonjour François Lamy.
Bonjour.
C'est le grand retour des affaires. Big Malion, Sarkozy, Cahuzac, Rocard, fraude fiscale, financement illégal de campagne. Qui va profiter de tout ça?
Comme d'habitude, vous savez bien que ce sont toujours les populismes qui profitent de ces affaires. En même temps, vous avez peut-être une coïncidence de date. Bon, on est en train de...
Coïncidence, c'en est pas une, hein, dit le camp Sarkozy. Regardez le procès Cahuzac.
Moi, je crois,
on
mais parce
de
que
nous faire un
parce que Nicolas Sarkozy confond toujours la justice lorsqu'il était au pouvoir et qui était en partie pour le parquet, en tout cas aux ordres du voilà. Et la justice aujourd'hui, où je rappelle que maintenant les instructions individuelles sont totalement interdite, y compris par la loi. Bon. Donc voilà, je pense que voilà, la justice est en train de passer sur l'affaire Cahuzac. D'ailleurs, c'est pas une révélation. Je veux dire, Jérôme Cahuzac a reconnu sa culpabilité et la justice l'a poursuivi. Donc on est dans l'ordre naturel des choses.
Mais là, il fait des révélations, disons, sur la destination des fonds et pourquoi il a ouvert ce compte en Suisse. Il affirme, lui, c'est d'ailleurs ce qui avait été dit dans quelques livres, hein, déjà des enquêtes journalistiques, il affirme, lui, que c'était pour Michel Rocard, pour financer une éventuelle campagne présidentielle.
Le problème de Jérôme Cahuzac, c'est que c'est pas le plus crédible en matière de vérité. Bon, il a déjà beaucoup menti.
Donc, vous avez du mal à le croire quand il dit ça?
Non, moi, ce que je voudrais, c'est que dans ces cas-là, on peut pas se permettre de jeter ça, comme ça, sur la place publique, lors d'un procès, de ne pas l'avoir dit aux juges qui ont fait l'instruction, de ne pas l'avoir dit aux policiers, et puis tout d'un coup, on restait là. Voilà, donc soit il dit vraiment totalement la vérité et il le démontre, voilà, mais je vous dis, là encore, Jérôme Cahuzac n'est pas pour moi, je veux dire, le symbole de la vérité et de la crédibilité.
François Lamy, est-ce que vous craignez que ces affaires, d'où qu'elles viennent et qui qu'elles touchent, puissent polluer la campagne présidentielle?
Mais moi, je suis toujours inquiet, mais ça fait des années que ça dure. Que lorsque ces affaires sortent, qu'elles pourrissent la vie politique en général, et qu'elles donnent l'impression toujours aux citoyens que on a une petite classe politique qui s'exonère des règles, qui s'exonère des lois, voilà. Alors que la réalité des choses, c'est un monde politique d'élus qui appliquent la loi, qui se battent d'ailleurs pour que la transparence existe. Regardez ce qu'on a fait pendant ce quinquennat sur la transparence sur le patrimoine des ministres, sur les déclarations d'intérêt des parlementaires, tout ça a beaucoup avancé.
Et est-ce qu'il faut aller plus loin dans la République irréprochable que promettait François Hollande?
Il faut certainement aller plus loin sur la question de la rapidité de la justice. Voilà, parce que c'est vrai que on parle de vieilles, entre guillemets, de vieilles affaires. Regardez, s'il y a effectivement financement de partis politiques, c'est pour Cahuzac, ça date des années 90. En ce qui concerne Nicolas Sarkozy, ça date quand même de la dernière élection
2012,
présidentielle, donc ça fait 5 ans. Voilà, c'est peut-être là encore où il faudrait donner plus de moyens à la justice pour qu'elle traite plus rapidement ces affaires. Mais en tout cas, à chaque fois qu'elle passe devant la justice, la réalité, c'est que ça veut dire qu'il y a des lois et qu'elles sont appliquées. Voilà. Et qu'il faut être très très ferme là-dessus.
Ouais. On est à 8 mois maintenant de l'élection présidentielle. Est-ce que, vu d'ici, la gauche est condamnée à l'échec électoral?
Moi, je ne crois pas. C'est vrai que la gauche...
Vous y croyez, franchement, que le candidat de la gauche, quel qu'il soit...
Je vois bien que la gauche est mal en point. Bon, je vois bien qu'elle est divisée, qu'elle est fracturée. Je vois bien que le bilan du quinquennat est pour le moins mitigé, en tout cas, et que les électeurs eux-mêmes de gauche ne s'y reconnaissent pas. On l'a vu lorsqu'il y a eu un certain nombre d'élections intermédiaires, d'élections locales, que ce soit la municipale, la départementale ou la régionale. Bon, donc, mais rien n'est jamais perdu en politique, pour peu qu'on ait une bonne analyse de la situation et qu'on soit capable de s'expliquer sur ce qui a été fait, sur ce qui a été bien fait, moins bien fait. Pourquoi? Sur la question qui est pour moi la question principale, la question du chômage.
Alors,
on n'a pas été aussi loin.
Si vous aviez des électeurs à convaincre, vous leur diriez quoi? Finalement, le bilan, il est mitigé, c'est le terme que vous avez employé, mais il est plutôt bon sur quoi?
Il a été, il est même bon, je dis même quasiment excellent sur les questions éducatives, parce que d'une part on a stoppé l'hémorragie du nombre de fonctionnaires dans l'éducation nationale, on a remis les moyens, mais en plus on a redonné les moyens en essayant d'avoir des réformes qui replacent l'élève au cœur du système éducatif. On a eu des vraies réussites sur les questions de santé, même si ça n'a pas été facile pour Marisol Touraine. Bon, sur la question du droit des femmes.
Sur ces deux points, tous les profs ou tous les médecins vous diront pas que ce sont des réussites.
Hein. Mais moi, ce qui me préoccupe, excusez-moi, c'est dans les questions de santé, c'est, moi, c'est moins les médecins que les patients.
Que les patients, bon. Voilà, bon. Alors.
Et donc, voilà, on a eu des vraies réussites, et puis, bah, faut reconnaître qu'en matière de chômage, pour l'instant...
Qui était la promesse phare.
Qui était la promesse phare. C'est vrai qu'il y a un léger recul du chômage dont on doit se satisfaire. Bien entendu, bon. Mais que ce n'est pas.
Mais il y a eu 1 million d'emplois détruits, voilà, durant ce quinquennat.
Ce n'est pas satisfaisant et pas suffisant. Quoi.
Vous êtes un proche de Martine Aubry. Est-ce que la maire de Lille va s'impliquer dans la campagne à venir? Est-ce qu'elle va parler, choisir un candidat?
Oh là, moi, j'essaye de ne pas parler.
Vous
à
n'êtes
sa
pas
place.
Son porte-parole.
Voilà.
Hein.
Bon. Donc voilà, mais je sais que Martine Aubry, lorsqu'il y a besoin de le faire, elle peut avoir une parole forte. Bon, je pense que lors de cette campagne présidentielle, tout particulièrement dans ce qui va constituer la phase d'élaboration du projet, bon, je pense qu'elle aura effectivement des choses à dire.
Et des candidats à désigner ou une préférence à affirmer pour l'un ben pour l'autre.
On lui demandera.
Mais si je vous demande à vous, François Lamy, vous vous sentez plutôt Arnaud Montebourg, Benoît Hamon
Je refuse de faire, à cette étape-là, de faire des choix. Mmh. Bon. D'ailleurs, je suis
Pourquoi
un peu gêné.
C'est
parce
trop tôt
Oui, mais bien sûr. On a un calendrier. Les déclarations de candidature, c'est fin novembre. Bon. Et cette élection...
Non, ils peuvent se déclarer dès
élection,
maintenant.
Cette élection, elle est... Bien sûr. Oui. Bon. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'effectivement, qu'on se retrouve à l'élection présidentielle avec un seul candidat de gauche. Ou en tout cas, avec le minimum de candidats de la gauche pour avoir la capacité d'être au deuxième
de
tour.
De l'intérêt de la primaire, n'avoir donc, qu'un seul candidat.
Et donc, moi, ce qui m'intéresse... Et dans la primaire, c'est pas uniquement le choix d'un candidat, c'est aussi le choix d'un projet, c'est une vision pour la France. Bon. Et donc, c'est de cela dont on doit parler maintenant.
On voit bien l'impopularité de François Hollande. Est-ce qu'il pourrait être ce candidat?
Mais ça sera à lui de le décider. Vous savez, les choses bougent, les choses changent. Vous allez d'abord avoir la primaire de la droite. Et chacun va comprendre ce que pourrait être pour le pays un retour de la droite, quel que soit d'ailleurs le candidat.
Bon. Tous les sondeurs au jour d'aujourd'hui disent le candidat qui sera désigné par la droite sera le prochain
Français
président.
Vont découvrir les programmes sur la réduction du nombre de fonctionnaires, sur la suppression de l'impôt de solidarité sur les fortunes, bref, sur une vieille politique qui a déjà été appliquée et qui a produit le résultat que l'on connaît, ce que l'on a vu l'état de la France en 2012, avec une droite en plus qui va sur les terres de l'extrême droite, sur les questions d'identité, qui frise des fois le populisme. Donc je pense que les citoyens français vont se rendre compte de ce que c'est ce qu'est la droite.
Mais vous voulez dire
ça ne suffira pas pour la gauche.
Voilà, ça ne suffira pas de faire l'épouvantail de la droite.
Il faudrait être en capacité de faire un bilan, un inventaire, dès maintenant de ce quinquennat et de passer de proposer une autre étape, en s'attaquant peut-être...
Une autre étape ou une autre politique?
Non, j'allais dire que on n'est pas obligé, ça dépend des domaines. Bon, c'est clair que sur les questions économiques, on a eu un désaccord avec le président de la République et le Premier ministre sur ce qu'on a appelé la politique de l'offre, en disant que on a finalement mis sur la table 40 milliards d'euros pour les entreprises à travers le CICE ou le pacte de responsabilité, et que la création d'emplois n'a pas été au rendez-vous. Nous, on aurait préféré à l'époque qu'on cible vers les entreprises innovantes, vers les entreprises qui investiraient dans la transition écologique, bref, vers les secteurs créateurs d'emplois, et qu'on n'arrose pas tout le monde de manière indifférenciée. Voilà, là, il y a peut-être des choses à rectifier sur la question des collectivités locales, qui sont les premiers investisseurs et finalement les premiers créateurs d'emplois locaux, d'emplois non délocalisables. Bon, bref, il y a certainement matière à de nombreuses propositions.
Il y a à dire et à redire. Vous parliez d'économie, François Lamy, on a vu l'ex-ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Il était en déplacement à Bobigny hier, près de Paris.
J'ai vu ça, oui.
Oui, ça a l'air de vous exaspérer déjà.
Non, ça m'exaspère me fait sourire.
Ça vous fait sourire. Bon, alors, vous allez nous dire pourquoi. Juste pour que je situe pour les auditeurs, donc à Bobigny, banlieue parisienne, et il a déclaré qu'on a créé de la déception en banlieue en faisant trop de promesses et trop de concessions par clientélisme, et je sens que l'ancien ministre de la ville que vous avez été est un peu agacé.
Oui, enfin, je pense que ça fait du bien à Emmanuel Macron de découvrir ce qu'il appelle les banlieues. Voilà.
C'était rendez-vous en terre inconnue pour lui ?
Oui, visiblement. Ouais. Visiblement. Moi, d'abord, je préfère parler de quartier populaire, parce que vous savez, les banlieues, c'est ceux qu'on rejette. Voilà. Dans ces quartiers populaires...
Oh, bah, c'est la banlieue.
Vous avez des quartiers... Moi, j'habite à Lille, les quartiers populaires, ils sont en plein cœur du centre-ville. Ouais. Voilà. Donc, la réalité, elle est souvent complexe. Et voilà, il n'y a pas de quartier...
Ça n'est pas forcément une réalité géographique.
Moi, j'aime pas les théories globalisantes. Ouais. Voilà, en disant, on classe les banlieues. Les banlieues. Ouais. Donc, il est allé à Bobigny, et il a certainement vu des choses extraordinaires, parce que vous avez... d'ailleurs, il était accompagné de quelqu'un que je connais bien qui a créé une entreprise s'appelle un cabinet de recrutement qui s'appelle Mosaïque RH, qui fait assure du recrutement de jeunes dans les quartiers populaires. Donc voilà, il s'y passe des choses. Bon, j'ai pas l'impression qu'on ait fait beaucoup de promesses à ces quartiers.
Il y a des promesses sur le chômage qui ont été entendues, sur le pouvoir d'achat qui ont été entendues.
Il y a eu un travail, malheureusement, il y a eu beaucoup de choses de fait. Je pense aux emplois d'avenir, pense à un certain nombre de tout le travail qui a été fait sur le développement de l'entrepreneuriat à l'intérieur de ces quartiers. Bon, mais il y a la réalité d'une crise économique et sociale en France qui touche plus particulièrement, plus durement ces quartiers, parce qu'il y a les concentrations de pauvreté génèrent elles-mêmes.
Mais ces quartiers, ils avaient massivement voté Hollande.
On a fait une première étape qui a consisté à remettre de l'ordre dans la politique de la ville. On a sanctuarisé les budgets. Bon, mais c'était pas suffisant et ce n'est pas suffisant actuellement.
Donc trop de promesses, vous êtes pas d'accord?
Il faut des moyens humains à l'intérieur de ces quartiers parce qu'ils s'y développent aussi. Des phénomènes qui peuvent être inquiétants, que ce soit les trafics ou des phénomènes de radicalité. Mais moi, ce qui m'a ennuyé dans la visite d'Emmanuel Macron, c'est tout d'un coup, moi j'ai le souvenir, je me suis battu avec Bercy.
Quand il était conseiller pour les affaires économiques, il fallait obtenir des
crédits. Je me souviens d'avoir été le voir lorsqu'il était conseiller à l'Élysée sur des questions urbaines. J'ai pas eu le sentiment à l'époque que ça avait évoqué quelque chose pour lui, quoi. Voilà. Maintenant, c'est bien. Je veux dire, il progresse. Il découvre la société française. Nous, on est immergés dedans depuis des années, quoi.
Il progresse. Donc, vous lui faites un petit.
Bah oui, on peut. Je veux dire, on va pas reprocher à quelqu'un qui tout d'un coup passe le périphérique, tout d'un coup de s'intéresser à d'autres choses. Après, il va falloir sortir de l'écume, il va falloir sortir des lieux communs, des choses comme ça. Il va falloir passer aux propositions vraiment concrètes, quoi.
Merci François Lamy.